Avant l'écrit, il y a le dit et le chanté, la parole toute puissante, généalogie et morale. Avec l'écrit, tout disparaît, mais rien ne disparaît, tout transparaît, se reformule, se fixe, se projette. C'est le chant des mots, c'est le dit de l'écrit.
Pascal Paradou.
Ici à Nouakchott, où nous sommes pour le festival des Traversées Mauritanides, le livre est roi, comme dans tous les festivals de littérature, mais tous ne se déroulent pas en Mauritanie, pays pluriculturel où chaque groupe de la population, les Maures, les Soninkés, les Peuls, les Wolofs, cultive consciencieusement son histoire et ses légendes. L'oralité s'invite donc dans les pages. Bonjour Mamadou Kalidouba.
Bonjour.
Écrivain, professeur à l'université de Nouakchott et coordinateur de plusieurs ouvrages dont Visage des littératures et traditions orales de langue mauritanienne. Pour vous, tout vient de l'oral ?
Oui, à l'origine, tout vient de l'oral. Parce que nos traditions orales, globalement, nos langues ont été d'abord des langues orales avant d'être écrites, transcrites. Et donc, nous avons globalement, je crois, conservé cette oralité qui est encore beaucoup plus utilisée que l'écrit.
Alors, quelles que soient les communautés, c'est-à-dire que je sois maure et que je parle assania, c'est-à-dire un dérivé de l'arabe, ou que je sois peul parlant le poulard, c'est la même chose. Les traditions orales se valent ou elles se différencient ?
Sans doute qu'elles se différencient. Moi, je connais beaucoup plus le cas des traditions orales peul. Et là, je sais que pendant très très longtemps, le poulard s'est exprimé à travers l'oralité. Et la langue n'a été d'ailleurs véritablement transcrite à travers une transcription homologuée qu'à partir des années 61, si ma mémoire est bonne. Donc vous voyez, c'est encore très récent. Donc globalement, et aujourd'hui encore, même dans les différents romans, moi je suis également romancier, mais je sais que dans mes romans, il y a beaucoup de traditions orales.
Donc on entend l'oralité dans l'écrit.
C'est exact.
Ça tape à la porte.
Oui, oui. Tant du point de vue d'abord de la narration, parce que quand je narre, moi je narre un peu comme le conteur. On retrouve, enfin jusque-là, les collègues qui m'ont lu me disent, ben, écoute, oui, j'ai dit oui. Un peu comme un certain Amadou Ampateba, qui, je disais, Amkoulel, qui n'était rien d'autre qu'un conteur peul, qui le gardait éveillé toutes les nuits, les soirs. Et donc, lui, il s'appelait Amkoulel, petit Koulel, c'est-à-dire petit conteur. Et moi, je fais à peu près quelque chose de ce genre-là.
Donc, on ne vous lit pas tant, mais on vous entend surtout quand on vous lit.
Sans doute.
Rassem Hamedou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous aussi, écrivain, mais aussi ethnologue. Est-ce que c'est un hasard ?
Disons, par hasard, le cursus universitaire m'a amené à l'université de Nice, Sophia Antipolis, au laboratoire d'ethnologie, pour faire une thèse, justement, sur la symbolique de l'eau dans la tradition orale maure.
Il faut préciser que vous êtes... En plus de tout cela, membre fondateur de l'Association des écrivains de langue française en Mauritanie, je crois qu'il compte une vingtaine de personnes. Quand on écrit en français, puisque c'est votre cas, Rassem Hamedou, est-ce qu'on se réfère à une tradition orale ? Et si c'est le cas, à quelle tradition orale ?
Chacun a la sienne, comme l'a dit Khalidou. Moi, je pense que ce qui a un peu poussé, qui m'a poussé personnellement à aller vers l'écriture en langue française, j'aurais pu le faire en arabe, je suis arabophone, mais je trouve que l'oralité se traduit mieux dans la langue française. Je trouve moi-même qu'en écrivant en français, je trouve un cadre mieux structuré pour l'oralité.
Le français chante davantage que l'arabe.
Je pense. chante ou bien aussi traduit du point de vue poétique à d'autres registres poétiques qu'on ne trouve pas, en tout cas dans la langue arabe, que moi je n'ai pas trouvé.
Alors, avec vous deux, Aboubakri Djapartarso, bonjour.
Bonjour.
Anthropologue et ethnomusicologue. Vous êtes actuellement conseiller pour le Musée des civilisations de Dakar et enseignant aussi à l'Université Charanta Diop. La musique et la littérature orale, est-ce qu'elles sont étroitement imbriquées? Est-ce qu'il peut y avoir des récits sans accompagnement?
Musique et littérature orale sont en tout cas sont très très liés dans le cadre du terrain moi qui m'intéresse, c'est aussi de la Mauritanie, une ethnie qu'on appelle les Peuls, donc où j'ai fait mes recherches. Et comme disait tout à l'heure monsieur Ba, on ne peut pas parler de nos traditions sans parler de l'oralité. Et nous avons une structure sociale constituée par un groupe, enfin une catégorie qu'on nomme la catégorie les médiateurs, qui sont comme une sorte de sang qui irrigue le corps et à travers l'oralité, à travers le chant et à travers la musique. Généralement, quand on parle des griots en Europe, on pense que tout Africain, Ouest-Africain en tout cas, qui fait de la musique est un griot. Alors que non, les griots font partie donc de cette catégorie des médiateurs et ils sont ceux qu'on appelle les maîtres de la parole. Donc ces familles, ce sont des familles à qui appartient la parole, à qui appartient la généalogie, etc. Mais à côté de ces griots, toujours dans la même catégorie des médiateurs, il existe d'autres traditions orales, comme des boisseliers, des tisserands, etc., etc., qui ont leur manière de leur oralité, leur chant.
Alors, à vos casquettes universitaires, vous avez rajouté aussi celle de musicien, parce que je crois que vous jouez plusieurs instruments.
La guitare. Oui, la guitare, le luth traditionnel, les percussions, je suis multi-instrumentiste. Voilà.
Et vous avez produit il y a quelques années un disque intitulé Doctan Kotawa,
oui.
Qui s'inspire de la tradition, mais c'est du tradi moderne.
Oui.
Peut-être qu'il faut préciser ce que veut dire le titre Doctan Kotawa.
Doctan Kotawa signifie le recours aux sources. Le recours aux sources.
Pas
parce
le
que très souvent, ouais, très souvent, on parle de retour aux sources. Mais pour moi, il est impossible de retourner dans les sources. Aujourd'hui, c'est un terme en fait de Cheikh Hamidou Kane, qu'il avait écrit dans un article, il parlait de recours aux sources. Et le recours aux sources, c'est-à-dire c'est de repartir dans ces traditions et de puiser, en tout cas de s'inspirer de ces traditions et de voir qu'est-ce qui peut coller quoi, avec la réalité d'aujourd'hui pour aller de l'avant. Parce qu'il y a des choses dans les sources qu'on ne peut plus revivre aujourd'hui. Donc pour moi, c'est plus juste de dire le recours aux sources. Et cela, on l'a fait aussi en revenant ici parce que l'album dont vous parlez est produit en Belgique sur le label Gong Record. Donc on est venu ici en Mauritanie et on a mobilisé tous les musiciens mauritaniens de toutes les ethnies et l'album lui-même reflète en fait la réalité mauritanienne, la réalité musicale, orale, etc.
Du pays. Et parmi les 10 titres de cet album, il y a celui-ci, je le prononce peut-être pas très bien, Gualo Minsk Miskinebe.
Voilà, c'est Gaolo Miskinebe. Ça veut dire
Gaolo.
Le griot des pauvres.
Mbodonelma, Jukale Liangata, Masina Torveli. Mbodonelma, Salio Yangata, Masina Torveli. Bimayeta jamanu jibenata amie chita anu kimi nyamini mi anu kimi konjidir mi oduna gilaiza tike bemen haye alma me bemen haye lam toron jum faya jumulani jumersani masina torwen. Yomi Arnoi, Tupne Nyanga Somi Wurdi, Mirewoye Pombido. Yomi Nyalini,
Une découverte sur RFI avec votre album Aboubakri Njapaftasso. Quelques mots sur ce titre qu'on vient d'entendre, Griot des pauvres.
Ce Griot des pauvres, c'est une reprise en fait d'une chanson de quelqu'un de très connu chez nous qui s'appelle Baba Mal, qui chantait Futa Toro et qui avait fait cette chanson. Et moi, je l'ai repris et j'ai rajouté justement ce côté Gaulo Miskinebe, qui est un terme dans notre mot, dans Mauritanien, intellectuel Mauritanien, qui est décédé, qui s'appelle Moutoudo Diop, qui aimait bien cette expression Gaulo Miskinebe. Et c'était pour expliquer que souvent en Europe, quand on dit par exemple Gaulo, on pense tout de suite au griot. Quand par exemple on voit quelqu'un en africain qui joue de la musique, on dit voilà, c'est un griot, alors que ce n'est pas forcément ça. Et Moutoudo, lui, il explique que les griots attitrés, quoi, souvent chantent des familles, chantent des gens riches, des gens de pouvoir. Et lui, il se considérait comme quelqu'un qui a sa musique, qui a sa voix, et qu'il le fait au service des gens invisibles. Ça même, il y a un refrain qui arrive après en français qui dit « ça c'est la musique des gens qui souffrent, et ça c'est la musique des gens oubliés ». Et justement, donc, le Gaulo Miskinebe, c'est la musique des gens oubliés.
Alors, le disque est un bon support pour la conservation des traditions musicales. Est-ce que c'est vrai aussi pour les livres, Mabadou Kalidouba ?
Ah, oui, c'est sans doute vrai pour les livres, effectivement. Il est important de recourir aux traditions orales, notamment dans une entreprise de résilience face aux nouveaux fléaux qui frappent notre humanité contemporaine.
Les fléaux de l'humanité contemporaine ?
Par exemple, c'est là où je voudrais en venir. Dans mon deuxième roman, par exemple, intitulé « Les remparts de l'espérance », qu'est-ce que je fais ? Parce que j'y traite le phénomène du terrorisme au Sahel. L'embrigadement de la jeunesse africaine à travers des mouvements djihadistes et qui se retrouvent du jour au lendemain combattant pour des causes qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes du mal à comprendre. Et alors donc le héros dans ce roman, donc Les remparts de l'espérance, se retrouve embrigadé, et lorsque enfin il revient chez lui, ses deux parents, donc Peul, lui signifient qu'il vient de faire quelque chose d'extrêmement grave. Lorsqu'un enfant Peul revient à la maison, en général c'est sa maman l'embrasse, et pour la première fois ici sa maman refuse de l'embrasser et son papa refuse de lui donner la main, et il décide pour lui une pénitence. Il l'envoie chez son cousin Serer, très loin dans le Sin Saloum. Les Serer sont un groupe ethnique qui sont des cousins à plaisanterie des Peuls dans la tradition. Et il l'envoie chez ses cousins Serer qui sont également chrétiens. Et il lui dit, tu devras aller y passer 7 ans, 7 mois, 7 jours pour réapprendre à relativiser les choses de la vie. Et donc là, vous voyez, là je propose un peu d'abord ce cousinage à plaisanterie, il est extraordinaire que l'on trouve dans nos traditions orales. C'est quoi ? Il y a un cousinage à plaisanterie entre les groupes ethniques, qui fait que lorsque deux groupes ethniques sont cousins à plaisanterie, ils n'ont pas le droit de se fâcher les uns les autres. Cousinage à plaisanterie entre deux patronymes, par exemple Ba et les Diallo, les So et les Bari, etc. Moi, je rencontrerai dans la rue, là, tout de suite, quelqu'un, après un choc, alors que nous sommes à 2 pas de nous empoigner, il suffit que je découvre que c'est un Diallo pour que nous finissions par éclater de rire, parce que c'est sacré, le cousinage à plaisanterie. Il peut également prendre d'autres dimensions. Alors, donc, à ce niveau-là, on peut tirer de nos traditions orales des sources de résilience.
Alors, hier, j'ai rencontré lors des conférences des traversées mauritaniennes l'auteur d'un livre que vous connaissez, j'imagine, livre intitulé Le souffle d'un destin commun, c'est Saïdou Abdoulaye Ba, qui est un ancien infirmier qui a voulu écrire, alors non pas son histoire d'infirmier devenant écrivain, mais les histoires de ses ancêtres, parce qu'il considère que la transmission se perd.
Elle a tendance à diminuer compte tenu de l'immigration, compte tenu que les enfants ne sont pas à côté des parents. Je prends mon exemple. Nous autres du troisième âge actuellement, nous avons appris pratiquement le cheminement de nos parents. Depuis, moi, j'ai écrit un livre qu'on appelle Le souffle d'un destin commun et qui prend mes ancêtres depuis le premier siècle jusqu'à ce jour. Et ça, c'est transmis par mes parents qui sont des marabouts, mais qui n'ont pas oublié leur passé. Mais mes enfants, pourquoi je l'écris ? Je l'écris pour que mes enfants, en lisant ce livre, bien que j'en ai fait qu'une narration, en lisant ce livre, ils auront au moins une idée de là où nous venons et là où nous sommes.
Mamadou Kalidou Ba, Rassem Hamidou, est-ce que l'un et l'autre vous écrivez pour transmettre justement cette histoire ou c'est ces histoires qui vous habitent et vous avez besoin de les écrire, de les exprimer? Rassem Hamidou, quand vous écrivez par exemple Le dernier des nomades ou Le génie des sables ou encore votre dernier recueil de poèmes Tonnerre au-dessus des vagues, est-ce que vous transmettez?
J'ai voulu surtout mettre dans mes écrits, j'ai voulu tout le temps focusser sur des problématiques de communauté, intercommunautaire. J'ai essayé dans mon premier roman surtout d'évoquer tout le monde. Et nous sommes un peuple de source arabo-berbère, mais nous avons, le Maure a été acquis à la tradition orale africaine et à l'oralité. Quand on parle tout de suite de ce concept d'oralité, la civilisation Maure est une civilisation orale parce que déjà la langue hassaniya, c'est une langue orale qui se démarque et qui concurrence l'arabe classique. C'est dans cette langue, en fait, qu'il y a la poésie, une poésie beaucoup plus riche que la poésie arabe.
Est-ce qu'il y a des contes, des proverbes, de la musique, vous aussi, à l'intérieur de vos récits?
Nous avons, dans la tradition orale maure, nous avons nos grigios. Mais les grigios, chez nous, ne sont pas seulement des... C'est une institution. Vous avez aussi l'institution artisanale. C'est-à-dire que toute la tradition orale, en fait, traduit l'aspect que nous voyons en Mauritanie, qui est un aspect de fausse caste. Vous avez la caste, donc, des guerriers. C'est une institution, elle est toujours présente, préservée par la tradition orale. Vous avez la caste des marabouts, préservée par la Mahadra, qui est l'école à dos de chameau, qui est l'institution des érudits religieux, Coran, etc. Tout ça, ça a un aspect institutionnel qui confère une certaine particularité à la tradition orale maure.
Alors, je vais oser une question qui est peut-être un peu délicate, mais est-ce qu'il y a assez d'historiens ou d'ethnologues qui travaillent sur ces questions de la culture, du passé, et qui, éventuellement, en faisant le point en tant qu'historien, en tant que scientifique, pourraient alléger le poids de la tradition, parce que ce que vous racontez, c'est quand même la pérennisation de modes de fonctionnement, de modes de pensée, de modes politiques, de castes depuis plusieurs siècles. Et ça peut être pesant. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, aujourd'hui, la tradition orale, d'une façon générale, est menacée. Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que pour le moment, du point de vue savoir locaux, en rapport avec la résilience par rapport au contexte difficile, etc., la sécheresse, etc., la désertification, les problèmes au niveau des écosystèmes marins, etc., fluviaux, tout ça, ce sont des traditions qui se traduisent à travers des savoirs locaux qui sont vraiment positifs en termes de résilience. Maintenant, par rapport aux recherches, aujourd'hui, l'alarme doit être plutôt du fait que sur ces aspects des traditions orales qui sont positifs, auxquels on doit recourir, comme l'ont dit mes deux prédécesseurs, il faut vraiment éviter aussi, alléger plutôt la concurrence de TikTok, Google, etc. Donc ce sont plutôt ces aspects-là qui menacent, qui sont beaucoup plus, les plus menaçants.
Mamadou Kalidouba, sur cette question.
Oui, alors, pesante en soi, non. La crainte, c'est qu'on vient de le dire, El Hassem Ahmedou, c'est qu'elle disparaisse sans pour autant que nous les ayons exploités à bon escient afin de les transmettre aux générations à venir, afin de les utiliser aussi pour faire face aux nouvelles difficultés. Parce que la tradition, ça sert à ça. Ça ne sert à rien de se crisper. Djapar Sassou vient de le dire, hein, on n'a pas besoin de retourner aux sources de tradition. Mais il s'agit d'utiliser un peu la tradition, ce qu'elle nous enseigne, sa quintessence, pour résoudre les nouveaux problèmes qui se posent à nous dans notre monde contemporain.
Alors cette question me vient après avoir écouté hier, on l'a déjà entendu dans l'émission, Saïdou Abdoulaye Baye, qui raconte finalement comment le griot ou l'orateur ou le musicien se fait historien de sa propre société et même de l'actualité des années qui ont pu passer.
Il y a dans chaque ethnie des gens, des conteurs, soit présents, soit anciens, puisque avec les cassettes, avec les supports, les gens continuent à écouter des gens, des chants qui, il y a des années, qui encore leur rappellent les faits passés. Par exemple, l'élé. L'élé, c'est une forme de chant qui permettait aux anciens de transmettre un message. Par exemple, l'élé de Samba Diop, qui parle de l'indépendance de la Mauritanie de 1960. Donc si un jeune écoute soit la cassette ou la vidéo, il voit en 1960 comment était Nouakchott et comment était la Mauritanie et à peu près comment les gens étaient unis et formés en ensemble, c'est-à-dire unis. On ne savait pas qui est Mohamed, qui est Demba, qui est Yero. C'est tout le monde œuvrait pour construire une seule et unique nation. Si vous écoutez ce chant, vous allez comprendre combien était important ce récit-là.
Et ce chant, ce récit, c'est une archive en fait.
C'est une archive, vous voyez, elle existe au niveau des médias et même il y en a des jeunes qui ont fait des vidéos.
Abou Bakri Ndja Paftasso, que dit l'ethnomusicologue de ce chant, le lélé qu'on vient d'entendre?
Déjà, nous, dans les répertoires traditionnels, on a toute une classification à faire. Par exemple, cette chanson qu'on vient d'écouter ressort en fait dans le répertoire qu'on appelle lélé. En fait, il s'agit des musiques très souvent anti-islamiques, mais qui parlent quand même aussi de l'amour, etc. Là, de la résistance, par exemple, on a eu beaucoup de chance que ce monsieur a immortalisé l'indépendance de la Mauritanie. Et en fait, je vais revenir tout de suite sur la question d'avant. Moi, je suis, vraiment, je le dis avec modestie, je suis le premier ethnomusicologue de la Mauritanie. Au niveau du fleuve Sénégal, des musiques du fleuve Sénégal. C'est-à-dire que nous avons des problèmes de chercheurs au niveau de la musique elle-même. Et on avait ici en Mauritanie un Français qui s'appelait Michel Guignard, qui avait étudié plus de 40 ans la musique des Maures. Et à la fin de sa vie, en fait, il voulait faire vraiment le rapport entre la musique Maure, comme il cohabite avec les Noirs ici en Mauritanie, mais qu'il n'arrivait pas parce qu'il n'y avait pas d'études de l'autre côté. C'est pour ça que c'est lui qui a encadré ma thèse de doctorat. Et il m'a fait beaucoup apprendre sur les Maures. En fait, j'ai connu les Maures mauritaniens à travers leur musique et à travers justement les travaux de Michel Kenya. Donc en revenant sur le fleuve Seine, donc c'est une ethnomusicologie d'urgence. C'est-à-dire que nous avons ce recours dont je parlais tout à l'heure, il doit se faire en urgence. Pourquoi? Parce qu'on est en train de perdre beaucoup de traditions et beaucoup de, voilà, beaucoup de répertoires qu'il faut vraiment pouvoir les récupérer, enfin disons les sauver et puis les transmettre.
Question posée à Salina Konaté, qui est là depuis le début de l'émission, mais je ne vous ai pas encore présenté. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes poète, mais vous ne vous contentez pas de la forme écrite, vous déclamez vos textes et vous êtes un jeune poète. Alors d'abord, est-ce que vous connaissiez ce chant de Lélé lié à l'histoire de l'indépendance de la Mauritanie? Est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est dans votre génération?
Non, cette musique n'est pas connue des gens de ma génération. Nous l'appelons d'ailleurs une musique classique. Nous appartenons à une génération du rap, mais également du slam, etc.
Mais alors dans votre travail sur les mots, sur le rythme, puisque vous parlez du rap, est-ce que la tradition orale ou les traditions orales des cultures mauritaniennes vous marquent ?
Moi, chez moi, c'est d'abord la voix qui écrit. C'est-à-dire avant de coucher quoi que ce soit sur les papiers, il faut d'abord que j'entends une petite voix qui murmure, par exemple la voix de Chikaya Otamsi, pour qui j'ai un profond respect, d'ailleurs qui a décidé de ma vocation de devenir un jour poète comme lui. C'est d'abord une voix.
Est-ce qu'on peut vous entendre ? Est-ce que vous avez quelques strophes ou quelques vers ou quelques phrases, tout simplement, à nous faire entendre ?
Oui, je peux vous déclamer ou lire un texte inédit que j'ai écrit les 3 août derniers, qui s'intitule « Contre l'éclipse ». Contre l'éclipse, j'écrirai toujours, car il m'a été donné de porter les complaintes des oubliés, comme une femme en fleurs. Je traînerai ma douleur de vivre tissée de mots jusqu'au rivage de l'aurore. Je veux boire à toutes les clartés du monde pour que l'horizon ne soit plus une frontière. Je n'ai qu'une soif, porter les germes de l'amour infini, offrir ma sueur en offrande pour renouer les attaches rompues du sang. C'est ainsi que se déjoue l'éclipse contre laquelle flambe ma bouche gonflée d'ardentes syllabes.
Mamadou Kali Douba, est-ce que la poésie qu'on vient d'entendre, alors il faut dire que Salihina est votre élève, hein, est-ce qu'il se réfère selon vous à la tradition orale ou est-ce que c'est de la poésie plus proche du rap ? Analyse à chaud.
Je ne vois pas de référence là, en tout cas pas explicite à la tradition orale. Je crois que Salihina s'est plutôt inspirée de la poésie écrite, ça et là. Il vient de citer Chikaya Otamsi, qui l'a beaucoup inspiré. Chikaya Otamsi, qui est donc un écrivain congolais. Hein. Et voilà, donc sinon, je crois que c'est dans le texte qu'il vient de déclamer, il se fait un peu le chantre de son voix. Et peut-être a-t-il aussi été influencé quelque part par Césaire. Hein, qui disait que dans le cahier d'un retour au pays natal que voilà ma parole etc. Donc voilà.
Et voilà, comme il l'a dit, j'ai été certainement inspiré par la poésie écrite et j'ai également écrit un autre texte qui s'intitule Assouman. Assouman est un terme soninké qui veut dire tout simplement la mère de tous, où je m'adresse à cette Mauritanie fracturée, à cette Mauritanie un peu fragmentée, où c'est comme si un soir j'entendais une voix qui me dit qu'Assouma est morte, c'est-à-dire la mère de tous est morte, et pour moi Assouma ne sera jamais morte parce que tout simplement elle est l'objet suprême de mon amour. Je pense que l'écriture, c'est-à-dire ça permet d'éterniser. C'est Christian Bobin qui le disait magnifiquement, il dit que la poésie permet de sauvegarder ce que le monde oublie. Parce que les choses sont comme la pluie qui tombe sur les sables. Donc il faut qu'on les garde avant qu'ils ne les absorbent, tout simplement.
Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Le festival Traversée Mauritanide se tient ici à Nouakchott jusqu'à dimanche. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Et cette émission, comme les précédentes, est à réécouter en podcast sur RFI.fr. À très vite.